Décryptage, Marie Cazadebé.
L'Ukraine est à 4 jours du second tour de la présidentielle et peut-être à 4 jours d'un saut dans le vide. Les sondages donnent le comédien Volodymyr Zelensky largement en tête. Pour ses partisans, le fait qu'il soit novice en politique n'est pas du tout un problème.
Ronald Reagan était un acteur, ça ne l'a pas empêché d'être président pendant de nombreuses années. Les Américains l'ont regretté quand il est parti. Pourquoi pas Zelensky ?
Face à lui, un professionnel de la politique, Petro Poroshenko, le président sortant, tout oppose les deux candidats. Leur campagne, leur discours, leurs valeurs et bien sûr leur électorat. Alors que dit ce clivage de l'Ukraine ? Un pays qui doit faire face à de nombreux défis, aussi sécuritaires qu'économiques. Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Anna Colin, les BDF.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous au studio. Vous êtes spécialiste de l'Ukraine contemporaine, enseignante à l'Université Paris-Nanterre. Et bonsoir Alla Lazareva.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, correspondante à Paris pour l'hebdomadaire ukrainien Tizden,
si je prononce. Tizden,
oui. Voilà, je prononçais mal, évidemment. Alors c'est vraiment une affiche inédite à laquelle on assiste d'un côté, donc je l'ai dit, Petro Poroshenko, le président sortant, plusieurs fois ministre, businessman fortuné. De l'autre, Volodymyr Zelensky, un comédien, producteur totalement novice en politique. La différence est frappante si l'on compare leur CV, mais aussi leur campagne. Anna Colin, Lebedev, les deux candidats ont choisi des formes très différentes de campagne.
Alors, Petro Poroshenko a choisi une forme de campagne relativement classique, hein, où il va parler de son bilan. Il met en avant un certain nombre de valeurs, qui sont à la fois des valeurs liées au conflit armé, hein, soutien de l'armée, poursuite de la préoccupation pour le conflit armé, et puis un certain nombre de valeurs qui ont peut-être crispé d'ailleurs une partie de son électorat potentiel lié à la question de la langue, on en parlera peut-être dans l'émission, et également à la question de l'Église. Donc voilà, il défend un bilan, il mène une campagne classique, il essaie de défendre ses idées. En face, Volodymyr Zelensky, lui, mène une campagne de communication, je dirais, relativement vide de contenu. C'est-à-dire, mis à part des clips vidéo relativement bien tournés, mais sans fond, derrière des déclarations d'intention générale, que l'Ukraine vive bien, que la paix règne sur le territoire ukrainien, le programme n'est pas clair. En revanche, il est sexy. Hein, c'est un emballage sexy d'une enveloppe dont on ne perçoit pas vraiment le contenu.
Alors, Lazareva, un débat devrait réunir donc les deux candidats dans le plus grand stade de Kiev vendredi. Jusqu'à maintenant, Zelensky a refusé la confrontation. Il a même laissé son rival seul vendredi dernier devant des milliers d'électeurs. Pourquoi refuse-t-il ce débat et cette discussion en public avec son concurrent ?
Sans doute parce qu'il n'a pas grand-chose à dire. Il n'a pas présenté vraiment le programme, tout ce qu'il veut dire chaque fois et ou ce qu'il ne veut pas dire peut-être est annoncé par son état-major. Donc l'état-major n'est pas du tout engagé vis-à-vis du peuple ukrainien. Il peut dire tout et le contraire et ça vaut absolument rien une fois Monsieur Zelensky serait peut-être élu. Donc c'est sans doute pour rester cette boule brillante et vide de l'intérieur, comme a évoqué tout à l'heure Anna.
Volodymyr Zelensky, qui a beaucoup misé sur les réseaux sociaux, notre correspondant Sébastien Gobert a rencontré l'un des membres de son équipe de communication numérique.
Ici, nous animons les pages de la campagne et nous répondons aux questions par mail, par Facebook, sur Instagram. Les jeunes n'ont pas été incités à venir voter. Ce n'était pas tendance, c'était ennuyeux. Nous leur expliquons que ce n'est pas difficile et que c'est très important. S'ils ne viennent pas voter, quelqu'un d'autre décidera à leur place.
Anna Colin, Lebedev, vous l'évoquiez, Volodymyr Zelensky utilise plus souvent la langue russe que l'ukrainien. Qu'est-ce que cela signifie en Ukraine ?
Alors, l'Ukraine est un pays bilingue. L'Ukraine est un pays bilingue, non pas au sens où elle est divisée entre un ouest qui serait ukrainophone et un est qui serait russophone, mais parce que l'essentiel de sa population parle les deux langues. Et avant le conflit armé dans le Donbass, le contrat social linguistique était le suivant. Chacun s'exprime dans la langue de sa préférence et l'autre lui répond dans la langue qu'il préfère. Donc le bilinguisme fait partie des pratiques ordinaires en fait en Ukraine. Et Zelensky d'ailleurs passe souvent d'une langue à une autre en public avec une petite préférence sur le russe. Aujourd'hui, dans le contexte de la guerre, ça, c'est bien entendu un message. C'est un message non pas pro-russe, mais c'est un message, disons, adressé à l'électorat qui a une préférence pour la russophonie et qui souhaite voir la russophonie présente dans l'espace public. Et cela, l'électorat de l'Est de l'Ukraine, qui a une préférence pour la langue russe, y est bien évidemment sensible.
Alors, Lazareva, est-ce que c'est une façon de s'éloigner de la ligne très patriotique de Petro Poroshenko, dont le slogan est « armée, langue et foi », et je suppose que cette langue, c'est l'ukrainien ?
Bien sûr que c'est l'ukrainien. Je pense aussi qu'il parle très très mal l'ukrainien. En fait, il ne le maîtrise presque pas. Il commence sans doute à l'apprendre que maintenant, tardivement. Il commence deux phrases en ukrainien. Il n'est pas capable de terminer tout son discours, petite réponse, intégralement en ukrainien. C'est beaucoup reproché justement par les milieux patriotiques parce que en fait la langue d'État est l'ukrainien et pour une partie de population, c'est extrêmement important de rester dans la considération que la langue d'État doit être respectée par le président qui représente la nation.
Anna Colin, Lebedev, vous nous dites finalement un discours que l'on entend peu chez Volodymyr Zelensky, ou sinon si on va sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tous les Ukrainiens n'ont pas accès non plus à ces informations-là, ou alors si on va le voir en spectacle. Et pourtant, selon un dernier sondage, on lui donnerait plus de 70% des voix dimanche prochain. Comment on peut expliquer que des Ukrainiens soient prêts à donner leur voix à un homme dont on ne sait pas du tout ce qu'il va faire s'il est élu ?
Disons que cette absence de programme est le principal atout de Volodymyr Zelensky. Il est, comme le dit très joliment un collègue, un écran vert, hein, comme ces écrans verts en fait des tournages de films derrière lesquels on peut mettre n'importe quel décor et n'importe quel effet spécial. Donc chacun y projette un petit peu ses fantasmes, ses envies de programme, ses envies de changement. Rien de ce qu'il dit n'est fondamentalement mauvais dans ce qu'il propose, sauf qu'il n'a pas véritablement de propositions concrètes. Et il est également connu des Ukrainiens, parce qu'au-delà des réseaux sociaux qui est sa stratégie de campagne, c'est tout de même un comique que l'on voit sur les chaînes de télévision. Donc dans le moindre village, la moindre grand-mère ukrainienne, quand elle allume la télévision, elle a eu une chance de tomber sur Zelensky, et notamment de tomber sur Zelensky dans le cadre d'une série télé où il incarne un Ukrainien ordinaire qui, dans une lutte contre la corruption, devient par hasard président du pays. Et il y a une confusion savamment entretenue par la campagne entre le personnage de la série télé et l'acteur qui joue ce personnage.
À la Lazareva, ça veut dire que les Ukrainiens lui font confiance, sont persuadés qu'il a les épaules pour s'occuper du pays.
En fait, les Ukrainiens souvent confondent justement le personnage de série télé dans lequel il joue le rôle de président, donc ce Vassil Holoborodko, et le vrai personne de Zelensky qu'il connaît pas du tout. Il apprête à lui les rêves qu'il veut incarner dans un président idéal. Les gens sont fatigués par la guerre, par les épreuves, par tas de choses difficiles qu'ils vivent tous les jours. Et en fait, ils projettent leurs espoirs sur justement cette page vide où tout le monde peut écrire ce qu'il veut.
Un choix, Anna Colin Lebedev, c'est un choix, c'est plutôt lui que Poroshenko, ou c'est vraiment un choix qui pourrait se porter vraiment sur la personne de Zelensky? On parle beaucoup de dégagisme en Ukraine. C'est un choix par défaut ou non?
C'est un peu un choix par défaut, au sens où c'est un choix de rejet de la classe politique ukrainienne qui a été mise en place depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991. On constate en effet que dans la révolution de 2014, la révolution du Maïdan qui a porté au pouvoir Petro Poroshenko, a été portée par un très fort désir de renouvellement. Il y a eu un renouvellement au sein de la société civile, des ONG, mais pas au sein des élites politiques. Les leaders politiques, enfin les personnages politiques qui se sont présentés à cette élection sont quasiment tous issus de l'ancienne classe politique. Ce n'est pas tant Poroshenko qu'on dégage. On les dégage tous, en fait, avec la figure de Zelensky, qui, lui, représente la seule perspective de renouvellement, malheureusement la seule perspective de renouvellement offerte par cette élection.
Petro Poroshenko n'a pas du tout cette image justement de sérieux, d'expérience à la Lazareva qui pourrait aussi rassurer dans un pays, on le disait, qui traverse une crise économique, une crise sécuritaire, on y reviendra donc avec une guerre toujours au Donbass. Il n'a pas du tout cette image-là, au contraire, il a fait ses preuves et il a échoué. C'est ce que pense alors la majorité des Ukrainiens, on verra bien le jour du second tour.
Je dirais que Petro Poroshenko s'inscrit un peu dans les tendances européennes et peut-être même au-dessus, plus large qu'européennes, de les élections où on ne veut pas élire le même président. On voit que ça se passait en France, aux États-Unis. On n'a pas élu le même... on n'est pas le premier ministre, mais si on voit les élections britanniques, italiennes et autres, il y a peu de dirigeants d'État qui prennent le deuxième mandat. Donc il y a déjà ça. Il y a oui, il rassure une partie des gens, mais il y a aussi ce rejet général dont a parlé tout à l'heure Anna, qui joue fort. C'est peut-être même une des meilleures présidents ukrainiens qu'on avait par rapport aux autres, je veux bien dire par rapport aux autres, parce qu'il y a quand même plusieurs réformes qui sont engagées, parce qu'il y a quand même l'économie qui se mise à reprendre, difficilement. Donc il y a les choses qui étaient faites. Mais pourquoi les gens ne veulent pas le voir? Parce qu'ils sont dans une espèce de... D'un côté, tristesse, et d'autre côté, quand même, manipulation qui passe par une communication et qui est sûrement forte.
Anna Colin-Lebedev, qu'est-ce qu'on peut mettre au crédit et puis aussi, finalement, dans la partie échec des 5 ans de mandat de Petro Poroshenko? Je pense d'abord peut-être aux acquis, comme les accords de partenariat avec l'Union européenne, ce rapprochement qui, justement, pourrait jouer en sa faveur. Il est d'ailleurs beaucoup dans un discours très pro-européen.
Alors effectivement, Petro Poroshenko est un leader politique respecté par les chefs d'État européens, entendu en Europe. On lui doit un certain retour d'ailleurs de l'Ukraine sur la carte mentale de l'Union européenne et des dirigeants occidentaux. On lui doit également une politique de redressement de l'armée et de stabilisation dans le conflit armé. Il ne faut quand même pas l'oublier. Au moment où Petro Poroshenko arrive au pouvoir, il n'est pas du tout certain qu'une bonne partie de l'Ukraine ne connaîtra pas le sort des républiques séparatistes. On lui doit un certain nombre de réformes économiques, on lui doit une stabilisation de la monnaie, mais dans la mesure où la situation reste difficile, et surtout dans la mesure où il continue à être entouré de personnalités en fait associées au schéma corruptif, associées aux anciens pouvoirs, tout ce qu'on peut mettre à son crédit en fait apparaît comme discrédité.
L'échec, peut-être Lazareva, c'est du côté de la lutte anti-corruption. On entend toujours dire que finalement il y avait beaucoup de promesses en 2014, que ce n'est pas allé assez vite. C'est ce qu'on peut lui reprocher peut-être?
Sans doute, oui. Au moins une partie des électeurs, c'est sûr qu'ils reprochent à Poroshenko que les réformes anticorruptionnelles ne sont pas passées assez vite. En fait, on a vu que le tribunal était nommé qu'au dernier moment. Donc,
oui, il annonce la création d'un tribunal spécial anticorruption. Ça vient un peu tard.
Un tout petit peu tard, oui, même un peu beaucoup. Mais en même temps, il y a aussi tout justement cette campagne qui est, comme dit Anna, très asymétrique et qui se tient beaucoup dans un calcul technologique. Ça perturbe beaucoup les gens, ils s'y retrouvent difficilement, ils savent pas encore résister à tous ces fake makers qui agitent beaucoup dans cette campagne.
Je vous propose d'écouter juste un extrait du discours de Poroshenko. Petro Poroshenko, c'était au lendemain du premier tour. Un discours dans lequel il semble vraiment appuyer son appartenance, en tout cas l'appartenance de l'Ukraine à l'Europe.
Une condition essentielle pour la poursuite de notre parcours, de notre voie européenne, c'est l'organisation d'élections libres et démocratiques. Et aujourd'hui, je félicite tout le monde pour le fait que l'Ukraine a brillamment réussi ce test. En fait, après ce processus électoral, nous avons passé un test d'européanité, ce qui signifie que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garder notre orientation européenne. Ce que nous faisons est conforme à la culture politique européenne et c'est conforme aux standards de la civilisation de l'Union européenne.
Alors au premier tour, Volodymyr Zelensky a devancé largement donc le président sortant Petro Poroshenko, 24% des voix contre 16. Et depuis, le ton de la campagne s'est vraiment durci. Anna Colin-Lebedev, on a l'impression que ce qui ressort de ces insultes, de ces attaques, c'est un peu un retour du thème Est-Ouest, avec des accusations portées contre Zelensky, notamment d'être l'homme de Moscou. C'est quelque chose d'assez classique en Ukraine. Et pourquoi choisir ce thème-là pour attaquer son adversaire, alors qu'on sent qu'il y a beaucoup de faiblesses dans la campagne de Zelensky sur lesquelles on pourrait appuyer?
Alors ma foi, je ne dirais pas que c'est classique, je dirais que c'est très très lié au conflit armé dans le Donbass, que une grande partie des Ukrainiens interprètent comme une guerre contre la Russie ou une agression russe dont l'Ukraine serait victime. Donc effectivement, être à la solde du Kremlin est l'accusation la plus grave qu'on puisse formuler contre un candidat aujourd'hui. Après, si vous voulez, la campagne électorale est effectivement devenue plus violente, mais elle n'a pas gagné en contenu. On espérait, les Ukrainiens espéraient énormément que des débats éclaireraient, en fait, ce qu'est Zelensky, ce qu'il propose, ce qu'il souhaite faire, quel est son niveau intellectuel, tout simplement. Mais en fait, le candidat Zelensky se dérobe, refuse un débat après l'autre, refuse de se présenter, devient violent au téléphone, mais surtout ne dit rien sur le fond. Et ce silence, en fait, est son principal atout. Tant qu'il ne dit rien, on n'arrive pas à évaluer ce qu'il vaut.
Ça veut dire qu'on peut projeter sur lui beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir.
Et surtout qu'il ne va pas dire une grosse bêtise qui va lui coûter sa campagne électorale.
Là, Lazareva, cette campagne s'est déroulée aussi à l'extérieur. Petro Poroshenko est allé à Berlin et les deux candidats se sont rendus la semaine dernière à Paris. Ils ont rencontré Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher ici en France ?
Zelensky sans doute voulait avoir un peu d'appui au niveau international parce que le seul rendez-vous qu'il avait avec les ambassadeurs au début de l'année, comme a écrit Le Monde, il était jugé comme raté en fait, comme pas réussi. Il se montrait très léger, un peu profond, et donc sans doute il voulait améliorer un peu son image. Et Poroshenko, je pense qu'il voulait renforcer son bilan, parce qu'effectivement, il est quelqu'un qui a pu signer l'accord d'association avec l'Union européenne, organiser pour les Ukrainiens les possibilités de voyage sans visa, c'est important, et donc il voulait sûrement mettre ça en valeur.
Anna Kolar-Lebedev, il a forcément été question des accords de Minsk avec Emmanuel Macron, et là aussi, dans le fond, finalement, Zelensky, on ne sait pas ce qu'il veut faire de cette question-là. Ça a dû être assez étrange, cet entretien avec le président français.
Je pense que l'entretien était... Oui, heureusement que les choses n'ont pas filtré, hein, heureusement ou malheureusement, hein, on ne sait pas véritablement d'ailleurs quel effet il a fait à Emmanuel Macron, mais il est certain que la position de Zelensky sur la guerre est tout sauf claire. L'une des premières remarques qu'il a fait sur la guerre dans le Donbass est la première chose, c'est d'arrêter de tirer, d'arrêter de s'entretuer, et puis ça va s'arranger. Ce qui est un peu léger pour un homme d'État.
C'est une base déjà.
C'est un point de départ, mais que les accords de Minsk n'ont pas réussi à faire respecter jusqu'à maintenant en plusieurs années.
Si Volodymyr Zelensky remportait la présidentielle dimanche, seriez-vous inquiète pour l'Ukraine à la Lazareva ?
Oui, clairement. Clairement, parce que justement, je ne connais rien de lui, comme tous mes concitoyens, parce que on ne voit pas le contenu de cette création virtuelle, en quelque sorte. Et avoir un président virtuel qui a peur de mon géopolitique de quel temps, qui n'a aucune expérience dans la politique réelle, même basique, qui cache ses intentions, c'est vrai que c'est le grand saut dans l'inconnu qui ne nous rassure pas, non.
Anna Kolar-Lebedev, vous seriez inquiète aussi pour l'Ukraine ?
Je serais à la fois inquiète pour les mêmes raisons que Alla Lazareva, et quelque part, à chaque fois que je vois les péripéties des transformations politiques en Ukraine, je suis assez optimiste parce que c'est un pays où tout changement est possible. C'est un pays avec une très grande ouverture des opportunités politiques, où on renverse des pouvoirs, où on renverse des hommes en place, où les citoyens sortent dans les rues, c'est une étape. C'est une étape, mais l'Ukraine survivra à ça également.
Ce que vous dites, c'est que si finalement c'est pas l'homme de la situation, si le peuple en a conscience, il ne restera pas. Oui, il pourra être dégagé.
En tout cas, je pense qu'il n'y a aucune chance que Zelensky installe un pouvoir autoritaire en Ukraine. Donc, au pire, il va faire du mal au pays pendant quelques années, jusqu'à la prochaine échéance électorale.
Alla Lazareva, juste un mot pour terminer. Est-ce qu'on sait qui l'entourera au moins ? Savoir un peu quelle est son équipe, ça compte évidemment.
Mais c'est aussi un grand mystère. Il a promis de le dire avant le 19, sans doute pour que les gens n'arrivent pas à réagir et se rendre compte qui sont-ils. Si on voit un peu les gens de son entourage, on voit un ex-ministre de l'économie, Alexandre Danilouk, on voit un député, Sergei Leschenko. Bon, pas les gens de grande poids.
Merci beaucoup mesdames Alla Lazareva et Anna Kolar-Lebedev pour ce décryptage, et merci à toute l'équipe, Éléonore Krenik, Eugénie Vicré, Charles Mamère et Hélène Avril. Tout de suite un nouveau journal sur RFI.